Afrique, le grand débat avec Dominique Guillot sur Africa numéro 1.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans le grand débat en direct sur la radio africaine. Le grand débat, vous le savez, c'est le regard d'Africa numéro 1 sur les événements qui font l'actualité en France, en Afrique et dans le monde. Pendant quelques jours, j'ai eu le plaisir de remplacer Francis Laloupeau qui sera de retour dès demain vendredi avec une émission en duplex de Dakar. Alors à la une aujourd'hui du grand débat, l'emploi des jeunes en Afrique, dans un continent où 200 millions de personnes ont aujourd'hui entre 15 et 25 ans, où les jeunes actifs représentent 37% de la population, mais 60% des chômeurs. Quel avenir pour les jeunes? Comment faire de la croissance un vivier d'emploi? Quelles conséquences pourrait avoir un chômage massif des jeunes sur les sociétés africaines? Voici les questions que nous allons poser à nos invités, que je vous présenterai dans un instant, et à notre débatteur polémiste du jour, Maître Dominique Kunku. Vous pourrez aussi dialoguer avec nous si vous le souhaitez en appelant le 01 55 07 58 00 depuis la France et puis 0033 55 07 58 00 si vous appelez hors de France, de New York, de Johannesburg ou de Cotonou. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux et notamment à travers notre page Facebook, Le Grand Débat. L'émission est réalisée par Hélène Bizio.
Africa numéro 1, Le Grand Débat.
L'emploi des jeunes en Afrique, c'est le thème du grand débat ce soir. Nous allons en parler avec Régine Gillet-Chos, présidente de l'APEJ, Agir pour l'emploi en Afrique. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Alors là, il faut que vous mettiez devant le micro. Voilà, pour la petite histoire, vous arrivez tout juste, donc vous êtes peut-être un peu essoufflé, donc je vais vous laisser prendre votre souffle. Et puis, alors au téléphone, serein, confortablement installé chez lui à Vienne en Autriche, Yves Ekwe à Maïso. Bonsoir Yves.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Bah écoutez, ça va très bien, parce que je suis actuellement dans le Rhône.
Ah! Pardon.
Pour être précis, dans la capitale du Beaujolais.
Ah, mais vous êtes un pigeon voyageur, donc je ne sais jamais où vous êtes, mais en tout cas, nous sommes très heureux de vous accueillir sur Africa numéro 1. Vous êtes un économiste bien connu des auditeurs, vous nous avez accompagnés pendant très longtemps, et j'espère que vous reviendrez aussi bientôt sur l'antenne d'Africa, nous y songeons.
D'accord, mais écoutez, pas de problème.
D'accord, et vous êtes le directeur du groupe de réflexion et d'action Afrologie.
Afrocentricité maintenant.
Ah, afrocentricité, ah bah, le monde bouge décidément.
Non, mais c'est le même monde, c'est le même monde. Bon.
Voilà, vous pouvez nous dire en quelques mots l'activité de ce groupe d'action et de réflexion?
Mais c'est très simple, nous avons constaté notamment les intellectuels et les personnes ressources dans la diaspora que l'Afrique, bien sûr, a eu très longtemps une image plutôt négative, ce qui est dû à la façon dont elle est représentée. Et donc nous avons choisi systématiquement, dès que un journaliste, un politicien, un décideur, qu'il soit africain ou européen ou quel que soit l'endroit où il est, se met à s'attaquer à l'Afrique de manière injuste ou à l'Africain ou l'Africaine de manière injuste et souvent infondée, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas l'histoire africaine ni l'histoire ancienne africaine, alors nous réagissons. Et d'ailleurs l'emploi, le thème que vous avez choisi, rentre dans ce cadre-là.
Voilà, alors depuis quelques années, le scénario que nous présentent beaucoup d'économistes sur l'Afrique, c'est un dynamisme démographique qu'on présente globalement quand même comme une chance pour l'Afrique.
Oui.
On va y revenir. 2 milliards d'habitants sur le continent en 2050, ce sont les projections des spécialistes.
Oui.
Mais dès 2035, l'Afrique aura plus de population potentiellement que potentiellement au travail, une population dite active, donc que la Chine et l'Inde.
Juste, voilà. Sauf que beaucoup seront au chômage.
Voilà,
et
c'est ça.
Auront un pouvoir d'achat beaucoup plus faible.
Voilà, c'est pour ça qu'on dit potentiellement au travail. Voilà.
Absolument.
Avec l'émergence, on le sait, d'une classe moyenne qui normalement devrait concourir aussi à la croissance et à la consommation. Des taux de croissance plutôt bons, même actuellement, parfois même à deux chiffres pour certains pays.
Oui.
Alors, une forte croissance, mais peu d'emplois.
Très juste, une forte croissance qui est très inégalement répartie.
Alors, pourquoi?
Et c'est dû à un seul problème très simple, c'est que la façon de créer de la richesse en Afrique est bloquée sur deux pôles. Soit on prend la matière première, on ne la transforme pas.
L'économie de la rente, hein, c'est ça.
Et compte tenu du fait que c'est de mieux en mieux payé, cette matière première non transformée, notamment avec la compétition au niveau global avec les pays émergents, la Chine en particulier, l'Afrique se retrouve avec un paquet d'argent, et oublie fondamentalement que l'emploi, qui est votre thème, se constitue d'abord au niveau agro-industrie et l'industrie. Et quand je dis l'industrie de transformation. Il ne s'agit pas uniquement des mines, parce que dans les mines, nous avons aussi beaucoup de travailleurs. On prenait le cas de l'Afrique du Sud, ils sont très mal payés, le pouvoir d'achat ne suit pas, et regardez potentiellement les crises que nous avons connues ces derniers temps.
Voilà, alors c'est ce qu'on a appelé, Yves Kouamaïso, l'économie de la rente, c'est-à-dire que
absolument.
Finalement, on s'endort sur un avantage qui est lié au sol, à la géographie, et on ne transforme rien.
Voilà, alors vous dites, on s'endort, je vais être plus sévère que vous. On a constaté que depuis 2009 et jusqu'à maintenant, 2012-2013, que beaucoup ne s'endorment pas, mais vendent les terres africaines carrément. Et donc, on risque de se réveiller vers 2030-2035 que vous avez cité, avec pratiquement 35 à 50% du sol africain qui n'appartiendrait plus aux Africains.
Voilà. Alors, ce soir, on a décidé de se centrer sur l'emploi des jeunes, qui, on l'a vu, représente évidemment l'avenir du continent, mais une force particulièrement importante,
oui.
Qui n'accède pas toujours à l'éducation, mais pour une certaine partie de la population y accède, mais qui en tout cas n'accède que très rarement à l'emploi.
Oui.
Alors, je vais donner la parole à Régine Gillet-Chos, qui est présidente de l'APEJ, Agir pour l'emploi en Afrique. Madame, c'est quoi exactement l'activité de l'APEJ?
Alors, l'APEJ est une association d'insertion sociale et...
Mettez-vous bien devant le micro, oui.
D'insertion sociale
pas trop le micro.
Et professionnelle.
Approchez-vous, oui. Voilà, on va y arriver.
Donc, je disais que l'APEJ est une association d'insertion sociale et professionnelle qui a pour mission d'insérer en France les jeunes qui veulent trouver un emploi dans l'Hexagone, mais de réinsérer aussi en Afrique les mêmes jeunes, mais pas seulement les jeunes, toute personne qui veut retourner trouver un emploi en Afrique. C'est un volet qui nous tient très à cœur. Nous voyons que l'Afrique se développe, beaucoup de gens arrivent en Afrique, mais certains enfants de l'Afrique sont partis et ne pensent pas à retourner développer leur continent, alors que l'Afrique aujourd'hui semble être l'étoile montante pour la plupart des investisseurs étrangers.
C'est ça, on a un petit paradoxe qui est en train de se développer dans les médias en ce moment, je me tourne vers Yves Kouamaïso, c'est que il y a une bonne rumeur sur l'activité économique en Afrique, on sent qu'un certain nombre d'investisseurs se penchent sur le destin des entreprises africaines. Sur le plan macroéconomique, on ne peut que se féliciter des taux de croissance que beaucoup de pays d'Europe nous envient. Voilà. Et en même temps, sur le terrain, personne ne peut raisonnablement constater que les choses vont beaucoup mieux.
C'est très simple. L'économie, il faut jamais chercher à midi à 14 heures. Une économie va mieux dès lors que les gens mangent à leur faim, c'est-à-dire que le panier de la ménagère est rempli quand on va au marché. Quand vous prenez le prix de la plupart des denrées de base, tomates et tous les fruits locaux, ben écoutez, le panier de la ménagère, il est rempli à moitié, pour ne pas dire à un tiers. J'avais même donné l'image tout simplement pour dire qu'aujourd'hui, ben, quand vous mangez au Sénégal le plat national qui est le tchebdine, ben, vous le mangez sans le poisson. Et quand vous le mangez au Togo qui est Hama ou le Foufou, tant quart du temps, on ne trouve ni viande ni poisson. C'est-à-dire que fondamentalement, il y a une perte de pouvoir d'achat. Et on revient à un autre problème qui est beaucoup plus important, qui va toucher aux jeunes, c'est les inégalités. La Banque mondiale a passé 20-30 années à dire que ça n'a aucune influence en économie, alors qu'un de leurs grands patrons, M. Brugnon, pour ne pas le citer, vient de faire un livre, bien sûr maintenant qu'il est à la retraite, pour justement parler de la mondialisation des inégalités, et plus particulièrement touchant en Afrique, et encore plus particulièrement les jeunes. Et donc, quand ces politiques ont été menées, suivies, soutenues pendant 30-40 années, vous voyez les dégâts aujourd'hui. Et donc, je reviens à ce que vous avez posé comme question tout à l'heure. Le principal refus ou oubli de soutenir l'industrialisation, la transformation de cette matière première à un produit consommable pour les Africains et donc achetable par un pouvoir d'achat des Africains n'a pas eu lieu. Et par définition, le taux de croissance augmente, les investisseurs, eux, le voient, donc ils courent pour aller s'installer, ils vont même jusqu'à acheter les terres, et même plus loin, ces ressources-là, mais oublient très loin de distribuer. D'ailleurs, les Chinois, on en fait tout un tintamarre, je reviens d'Éthiopie il n'y a pas longtemps, mais allez-y, il y a une zone franche qui est en train de se mettre en place, je vous garantis qu'il y a 7 ou 8 grandes sociétés chinoises qui fabriquent des chaussures qui sortent à 3 à 7 euros la paire de chaussures, vendues en France à 80 euros, je ne citerai pas la marque. Donc voyez la marge. Sauf que, 70% des gens qui sont dedans sont éthiopiens et touchent 40 dollars à la fin du mois. 40 dollars, je dis bien, 40 dollars, faut qu'on compare au SMIC français, est à 1000 et quelques. Et à partir de là, la plupart des Chinois sont tous chinoises, d'ailleurs je dis chinoises, parce que c'est souvent des femmes, dirigent. et ont quitté la Chine parce que le pouvoir d'achat se met à augmenter dans ces pays émergents.
Oui, parce que ce que vous êtes en train de nous décrire,
les Africains, oui, c'est parce qu'ailleurs ça devient plus cher, la fiscalité augmente, les impôts augmentent à la Chine comme ailleurs, et donc on se replie là où il n'y a pas trop de lois, où c'est flou, ou que les gouvernements acceptent comme une passoire que ça se déroule sans les règles.
D'accord, mais alors c'est le processus normal de la mondialisation. Finalement, on va chercher la compétitivité là où elle est, donc on est allé d'abord sur les marchés asiatiques où la main-d'œuvre était pas chère et il y avait un certain savoir-faire et une quantité de main-d'œuvre disponible importante. Oui. Et puis aujourd'hui, que effectivement, on sent qu'en Chine, il y a une pression sociale qui fait augmenter les salaires, même si on sait que ça va assez lentement et de façon très disparate. Oui. Il y a un certain nombre de pays qui deviennent compétitifs par rapport à la Chine, et donc l'Afrique devrait rentrer dans ce grand mouvement de la mondialisation et de la compétitivité. Mais ça, c'est une bonne nouvelle, non?
Attention, je partage parfaitement ce qui vient d'être dit, qui est d'ailleurs très juste, sauf que vous avez oublié un seul problème. Ah. C'est que quand tout le monde était parti dans les pays émergents, vous avez donné l'exemple de la Chine, c'est très bon, mais quand je dis Chine, c'est Vietnam, c'est Indonésie, tous les pays là-bas. Il y a une seule différence, c'est qu'ils y ont laissé la technologie. Les Allemands ont laissé comment on fait du textile là-bas. Les Allemands ont laissé comment on fait la plupart des carrosseries aujourd'hui, la peinture avec. Les gens ont laissé comment on fait des légumes, des roses en productivité relativement importante.
Et pourquoi ça ne pourrait pas arriver en Afrique?
Les caterpillars sont fabriqués là-bas, ce n'est plus les boutons.
D'accord.
D'ailleurs, les boutons aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'Afrique? C'est que l'Afrique, vous avez entièrement raison de dire que au niveau mondialisation, on se tourne vers ce continent, mais les dirigeants africains, pour parler d'eux essentiellement, mais l'ensemble des institutions de manière générale, a un défaut de négociation fondamental et ne pose pas de conditions. Et donc, il y a toujours deux contrats, pour être très simple, le contrat officiel que tout le monde peut voir ou ne pas voir d'ailleurs, est souvent bidon et mal géré, et un autre contrat, disons, à huis clos, là où se font les vraies transactions et que l'argent finit sur les comptes privés.
Alors,
voilà le fond du problème. Voilà. Et du coup, la technologie n'y va pas, le savoir-faire n'y va pas, et donc les contremaîtres, les dirigeants de ces structures chinoises ou ailleurs, descendent de plus en plus dans le pays. Ils sont pas très heureux chez eux, compte tenu de la liberté. Ils s'installent. D'abord, ils se marient en chinoise, et puis de plus en plus dans les campagnes maintenant, ils prennent les femmes africaines. Et comme certaines régions peuvent en prendre quatre à la fois, vous voyez, ça va très vite.
On aura l'occasion, Yves Ekoué Amaïzo, de parler notamment des accords de partenariat économique, qui sont un enjeu considérable dans les négociations commerciales entre l'Europe, par exemple, et l'Afrique, et dans lequel l'Afrique doit pouvoir imposer aussi son point de vue. Je voudrais accueillir Maître Dominique Kunku, avocat et pasteur.
Bonjour.
Bonjour, voilà, qui vient de nous rejoindre et qui va participer à cette conversation sur l'emploi des jeunes
bonjour.
En Afrique. Voilà, Régine Gillet-Chos, quand vous entendez ça, ce diagnostic d'Yves Ekoué Amaïzo, à la fois, c'est le verre à moitié vide et à moitié plein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va devoir se retourner vers les jeunes Africains qui sont quand même le réservoir de main-d'œuvre et du coup de compétitivité dans le monde. Et en même temps, aujourd'hui, il n'y a pas de transmission du savoir-faire sur l'Afrique. Mais vous êtes plutôt optimiste?
Je ne sais vraiment pas quoi répondre.
Ah.
Je pense que Monsieur Yves Ekoué Amaïzo a tout dit. C'est pour cela que je ne sais pas quoi rajouter. Je pense que lorsqu'un État ou les États ne mettent pas en place des politiques de protection, des politiques publiques en termes d'emploi, en termes de formation, c'est comme si on laissait une porte ouverte où tout le monde peut rentrer et faire n'importe quoi. Actuellement, c'est ce qui se passe aujourd'hui sur ce qui en matière d'emploi et de formation. Dans la plupart des, vous avez parlé de la mondialisation, effectivement, il y a une mondialisation, mais la mondialisation n'exclut pas la réglementation. Je ne vais pas pousser jusqu'à un certain protectionnisme. Ici, en France, on parle de plus en plus de nationaliser les entreprises, de régulation, nationaliser les entreprises. C'est vrai qu'en Afrique, il y a pas mal d'entreprises qui arrivent, mais comme il n'y a pas de législation contraignante, leur imposant de former les jeunes, de transférer les compétences, comme ce qui se passe dans la plupart des pays occidentaux, et bien ils font comme ils peuvent. Hein, finalement, à qui la faute?
Alors, on va revenir sur cette question, et peut-être au-delà du procès qu'on peut faire au régime en place, parce que finalement, on revient toujours là, peut-être
oui.
aussi donner okay. des pistes de développement économique pour l'avenir. On va le faire dans quelques instants, après une courte pause.
Jusqu'à 19h, c'est le grand débat avec Dominique Guillot sur Africa numéro 1.
18h17 sur Africa numéro 1. Ce soir, nous parlons de l'emploi des jeunes en Afrique. 37% de la population africaine, mais 62% des chômeurs. Pourquoi c'est cette injustice et tous ces jeunes qui restent sur le bord du marché de l'emploi? On en parle donc avec Régine Gillette-Chos, qui est présidente de Agir pour l'emploi des jeunes en Afrique. On en parle avec Yves Ekoué Amaïso, qui est directeur du groupe de réflexion et d'action redites-moi le nom, parce que j'ai Afrocentricité, car j'allais dire Afrologie, mais c'est,
non, c'est la même chose,
le nom
la même
précédent.
Chose.
Voilà. Et c'est puis avec maître, voilà. Maître Dominique Kunku, avocat et pasteur, bien connu des auditeurs du Grand Débat, qui nous a rejoint. Donc, que vous inspire ce nombre très inquiétant de jeunes qui restent au bord du marché de l'emploi, Dominique Kunku?
Je pense que c'est préoccupant, bien entendu, on ne peut pas dire le contraire, mais cela étant, moi j'ai beaucoup aimé le tournant que votre échange a pris, c'est que en réalité, nous sommes aussi dans ces temps, nous sommes dans le jeu et l'enjeu de la mondialisation, en ce sens que beaucoup ont décrié la présence asiatique en Afrique, beaucoup aussi, comme on avait décrié la présence coloniale, ainsi de suite, et j'ai envie de dire que il est peut-être temps de commencer à penser la politique autrement. C'est-à-dire que moi, en termes de recusation, hein, vous voyez, ou même à la limite ces pouvoirs qui sont là, ben, ils sont là. Bon, ils se valent pas souvent grand-chose, mais ils sont là. Mais cela étant, je me dis, est-ce que il y a trois facteurs qui me paraissent importants. Le premier, c'est que l'Afrique a su créer une demande mondiale incroyable. C'est-à-dire que il n'y a pas d'industrie sérieuse à travers le monde qui ne dépendent pas de la fourniture africaine. Ça, c'est une chose réelle.
Et souvent, grâce à ces matières premières.
Bien entendu. Et souvent, c'est un point qu'on ne regarde pas. Et c'est un point de vue très important. Deuxième point de vue, c'est de dire que dans les temps qui viennent, et cette jeunesse, en fait, qui actuellement est en souffrance, est aussi, au fond, peut-être la jeunesse la plus importante en termes de croissance à travers le monde. Et je crois que c'est là qu'il faut arriver à penser des politiques autrement, peut-être même en dehors des politiques différemment. Et Yves a raison quand il dit qu'au fond, souvent, on a le sentiment que celui qui vient investir, c'est comme l'opportunité du siècle. Donc en fait, on lui laisse tout, on lui laisse ainsi de suite. Or, les Asiatiques, à un moment donné, même au moment où ils étaient les plus faibles, ils avaient une sorte d'orgueil, une sorte de puissance intérieure, en fait, qui faisait que, quand, par exemple, on vendait ne fût-ce que les TGV et tout ça...
Ils réclamaient un transfert de technologie.
Ils réclamaient, ils avaient ainsi de suite, et ils n'arrivaient, en fait, ça les gênait pas même de dépiauter tout un TGV, tout un train, ainsi de suite, pour pouvoir le reconstruire à leur manière, vous voyez.
Oui. Et c'est ce qu'ils ont fait, d'ailleurs.
Et c'est ce qu'ils ont fait. Et je crois que... Moi, j'ai le sentiment que c'est l'Afrique vit le moment le plus beau de son histoire.
Ah, hein,
le moment
bien.
Le plus beau de son histoire, sous la condition que nous pensons autrement, que nous ayons un état mental qui soit différent, que l'on puisse saisir les... C'est un peu comme au judo, vous savez, souvent...
Profiter de la force de l'autre.
Il faut savoir basculer l'autre à travers sa force. Mmh. L'Afrique se sent envahie actuellement. Les Chinois vont jusque dans les villages. Mais ils n'ont qu'à y aller.
Oui, oui.
Mais maintenant, c'est à l'Afrique d'arriver à ce qu'on appelle endogénéiser toutes ces puissances qui viennent, y compris les puissances coloniales qui se sont installées. À un moment donné, par exemple, les puissances occidentales se sentaient tellement puissantes, tellement ancrées et tellement sûres d'elles, en fait, qu'à un moment donné, ils n'ont pas vu venir les Asiatiques. Et maintenant, les gens, maintenant, ils négocient. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une difficulté des temps présents. Ça, c'est on ne peut pas le nier. Mmh. Et je pense que votre invité, depuis la dernière fois qu'on l'a écouté, c'est son combat, son cheval de bataille, et elle a raison. Mais cela étant, une politique de l'emploi, c'est aussi une politique du développement, c'est aussi une politique des investissements, mais c'est aussi une vraie politique. Et cette politique, et jusqu'à présent... moi-même y compris, de toutes les façons, c'est pas un procès contre qui que ce soit, c'est un procès aussi qu'on fait aussi pro domo. Mais jusqu'à présent, on a toujours été dans une sorte de défensive continuelle. Et peut-être qu'il est temps maintenant de commencer à intégrer une dimension prospective, arriver à dire...
Très bien, on vous a entendu, Dominique Kunku. Voilà. On va intégrer à cette conversation nos auditeurs qui veulent dialoguer avec nous, et Thiembo notamment qui est en ligne, je crois. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Oui, bonsoir. Thiembo.
C'est Monsieur Thiembo.
Ah, pardon, excusez-moi. On m'a ajouté sur mon écran un i.
Thiembo. Voilà.
Bonjour, Monsieur Thiembo.
Bonjour,
Thiembo.
Monsieur, et bonjour à vos invités.
Très bien. Ben, nous vous écoutons.
J'ai, J'ai rejoint votre premier interlocuteur,
Maïso,
je pense. Mais la chose qui empêche l'Afrique de décoller, c'est parce que l'Afrique ne comprend pas, ou l'Africain ne comprend pas, qu'il a été chosifié depuis de longues dates. Il a été chosifié de quelle manière? Un peuple, quand l'avocat dit qu'il faut penser, raisonner différemment, un peuple africain ne peut pas penser ni raisonner différemment. Pourquoi? Parce que nous utilisons la langue des autres. Nous pensons avec la langue des autres. Nous écrivons avec la langue des autres. Le deuxième élément, c'est la religion. Le deuxième invité, j'ai entendu, c'était un avocat, mais pasteur. Pourquoi est-il pasteur? Quand on a fait de grandes études universitaires et qu'on est avocat, et pourquoi veut-on être encore pasteur? On a une spiritualité des étrangers. Un peuple qui n'a pas sa spiritualité propre, qui ne parle pas sa langue, est un peuple qui est voué à la mort.
Maître Kunku, on va laisser nos invités réagir à votre intervention.
Non. Je comprends, et c'est un discours que j'ai beaucoup entendu longtemps. Un jour même, on m'avait dit, mais toi qui es si intelligent, comment se fait-il que tu pries encore? Je crois d'abord que nous touchons là une dimension qui est très, très personnelle. Hein. Ici, on parle beaucoup de la vie privée, mais cela étant, je l'assume, parce que je considère que, d'ailleurs, il y a un livre qui va sortir bientôt, que l'éveil religieux est aussi source du réveil de la société. La société occidentale telle qu'on la regarde, il n'y a qu'à lire des auteurs comme Max Weber, des auteurs comme Alain Perefit, hein, qui nous a quittés il y a quelque temps, qui parle de la société, la confiance, qui montre qu'au fond, la plupart des pays, par exemple, où le christianisme protestant s'est installé, les pays nordiques, en fait, c'est les pays qui ont beaucoup prospéré. Parce qu'il y a une éthique protestante qui permet d'accéder au pouvoir et à la richesse, y compris même à la prospérité. Maintenant, quant au problème de la langue, je parle ma langue, hein, c'est sûr, je la parle, je réfléchis dans ma langue, comme disait Senghor, mais nous sommes dans un contexte qui fait que lorsqu'il faut parler anglais, on parle anglais, lorsqu'il faut parler français, on parle français. Et moi, je dirais, de plus en plus, je sais pas pourquoi, mais je voudrais qu'il y ait une sorte de déconnexion, c'est-à-dire que tout ce qu'on recuse jusqu'à présent, il y a moyen, comme on dit, de les récupérer. Parce que si on ne sait pas récupérer, on sera toujours un peuple chosifié, en effet. Mais si on a la puissance de récupérer ce qui nous a oppressés jusqu'à présent, mais on va renverser ceux qu'on considère comme étant les puissants.
Et puis finalement, dans l'histoire, les langues coloniales qui ont envahi des continents, on a des exemples, l'Amérique latine,
le Brésil, c'est pas ça qui est...
Les États-Unis, puisque au départ, évidemment, il y a des langues locales, de multiples langues
locales. C'est pas ça qui les a empêchés de se développer,
de réussir.
Par contre, le côté religieux, moi, je me poserais même beaucoup de questions par rapport à la conception spirituelle africaine. Est-ce qu'elle n'est pas source? Elle n'est pas source de ce retard que nous rencontrons. Mais ça, c'est un point de vue, je suis prêt à le débattre, c'est pas l'objet, sans
non.
doute.
Voilà. Non. Iveco Amaïso, une réaction?
Oui, absolument. Écoutez, moi, je vais être très pragmatique. Hein, je reviens du Cameroun, où je m'occupe d'un grand projet
sur le bois, je crois. Hein.
Les artisans, l'entrepreneuriat et le bois. On a, sur la ville de Yaoundé, on a à peu près entre 2000 et 4000 entrepreneurs. Petite, moyenne, quand je dis petite, ça peut être des auto-entrepreneurs jusqu'à des structures beaucoup plus grandes de 80 personnes. Bon, ces gens ont des problèmes très simples. Ils coupent du bois dans une forêt, en sachant que plus de 60-70% est exporté, je ne citerai pas les noms des grandes sociétés françaises que vous connaissez d'ailleurs, sans transformation. La loi camerounaise vient de changer cela, il faut absolument changer, transformer au moins 1, 2, 3 niveaux de transformation.
À l'instar du Gabon, hein,
on arrive plus ou moins à faire des meubles, on arrive plus ou moins à faire des portes, on a des choses comme ça, on n'est pas encore au niveau du papier pour faire par exemple la papeterie. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'ils ont besoin d'un séchoir pour sécher le bois. Ce séchoir, on l'a pas au Cameroun, donc on va aller le chercher à l'extérieur en termes d'équipement. Cet équipement, il est soit en chinois, soit en allemand, soit en anglais. Donc la personne qui parle de langue, moi je veux bien parler la langue africaine du coin, d'ailleurs il y en a beaucoup au Cameroun, sauf qu'il va falloir bien qu'il apprenne la langue pour du manière d'utilisation. Bien sûr, il n'est pas obligé de le faire. Et c'est ce qui se passe. On a donc cherché quelqu'un qui parle les deux langues, la langue chinoise quand c'était un équipement chinois, pour qu'il traduise, et on a formé des formateurs locaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a d'abord déconstruit et on a reconstruit.
Très bien. Très
je
bien.
Choisis ce mot-là pour, plutôt que le mot récupérer qui a été utilisé tout à l'heure par mon collègue. Il faut déconstruire ce qu'on a appris et le réadapter, le reconstruire en fonction de la situation locale, et ceci en partenariat avec les locaux. Vous n'avez pas, ben, quand je dis vous, nous qui sommes de l'extérieur ou de la diaspora, nous n'avons pas d'ordre à donner aux locaux. Les locaux sont très intelligents. Il faut simplement leur donner comment utiliser ou accéder à ce savoir externe qui, de temps en temps, est bloqué, soit dans le cas particulier de la langue ou des choses comme ça. La
très deuxième bien. Chose, non, très non, vous n'aurez pas de deuxième chose, Iveco et Meizo, tout de suite, car nous allons faire une courte pause hein, pour des contraintes publicitaires, et puis on va se retrouver juste après. À tout de suite.
Jusqu'à 19h, c'est le grand débat avec Dominique Guillot sur Africa numéro 1.
Il est tout juste 18h30. Ce soir, nous parlons de l'emploi des jeunes en Afrique. Les jeunes, 200 millions de personnes entre 15 et 25 ans actuellement. Les jeunes actifs, ça représente 37% de la population en Afrique, mais 60% des chômeurs. Donc, quel est l'avenir de ces jeunes? Comment faire de la croissance africaine que l'on constate aujourd'hui un vivier d'emploi? Et puis, on y reviendra tout à l'heure. Quelles conséquences pourrait avoir un chômage massif des jeunes sur les sociétés africaines et sur leur stabilité? On en parle ce soir avec Régine Gillette-Chos, qui est présidente de Agir pour l'emploi des jeunes en Afrique. On en parle avec Iveque Amaizo, qui est le directeur d'Afrocentricité, cette fois-ci je ne me suis pas trompé, qui est un économiste distingué, bien connu des auditeurs d'Africa numéro 1. Et puis Maître Dominique Kunku, avocat et pasteur. On en parle aussi avec Feinke, qui est au téléphone, qui attend depuis un moment, donc à qui nous disons bienvenue sur Africa numéro 1.
Merci, bonsoir monsieur Dominique Guillaume.
Bonsoir.
Ben, c'est monsieur Feinke Madi Awa Ditijan. Donc, j'ai deux petites questions à poser à vos invités, à savoir monsieur Yves Kouamaïzo et monsieur Dominique Kunku, et plus la dame qui est à côté de vous.
Régine Gillette-Chos.
Régine Gillette. C'est-à-dire, vous avez entamé le débat en amont. Tellement le débat est intéressant, moi je pourrais réduire le débat au développement économique de l'Afrique. En ce sens, je vais poser une petite question. Et tant qu'on n'arrive pas à combattre la corruption et le népotisme, est-ce qu'il est-il possible de parler de croissance, d'industrie agroalimentaire, renflouement des banques, etc., etc. Ça c'est ma première question. Tant qu'on n'arrive pas à nettoyer les mentalités, à suivre le bon chemin, on ne peut pas parler de développement. Pas de développement économique, pas de développement social. Je ne sais pas si Yves Kouamaïzo peut dire le contraire, ou M. Dominique Kunku, ou Régine.
Alors, on va commencer par Régine Gillette-Chos, qui elle, dont le combat est agir pour l'emploi des jeunes en Afrique.
Deuxième question.
Voilà.
Deuxième question.
Très vite, alors. Hein.
Ça, c'est adressé à Yves Kouamaïzo, qui est économiste, qui est spécialiste. Bon, je suis économiste aussi de formation. Les ajustements structurels imposés par la Banque mondiale et le FMI.
Ce qu'on a appelé le consensus de Washington.
Les pays pauvres très endettés. Est-ce que n'est-il pas un facteur de la disparition de l'emploi en Afrique?
Ah, ça là, vous touchez, à mon avis. Alors, on va tout de suite répondre à cette première question, parce qu'Iveque Amaizo, sur ce terrain-là, à mon avis, va vous suivre totalement. Donc c'est ce qu'on a appelé le consensus de Washington, les ajustements structurels imposés par ces deux organismes qui ont finalement façonné les économies africaines depuis 30 ans.
C'est ça.
Alors expliquez-nous.
Qui c'est qui a la parole?
C'est vous.
Ah ok.
Et puis on répondra à la première question juste après.
Sur le consensus de Washington, c'est très simple. Les mêmes institutions que vous venez de citer sont en train de revenir dessus. Il y a beaucoup de livres qui sont en train de sortir, sauf que c'est très difficile, après 30-40 ans, de revenir en arrière. Mais le fond du problème, c'est qu'ils ont créé des inégalités très profondes qui empêchent de créer l'industrie et donc la transformation et donc de l'emploi. Et par définition, les conséquences, c'est ce que vous dites, il n'y a pas d'emploi, surtout pour les catégories les plus fragiles et vulnérables, l'emploi des jeunes et l'emploi des femmes.
Mais la deuxième chose... Excusez-moi, Yves, vous m'entendez? Oui. Juste pour que tous nos auditeurs comprennent bien, les ajustements structurels, le principe, c'était en fait d'appliquer des méthodes très occidentales aux économies africaines, c'est-à-dire il faut rétablir les grands équilibres.
Oui.
Hein, il faut alléger la charge de la dette publique, alléger le nombre de fonctionnaires.
Il faut surtout dire qu'on a quand même passé une période d'abord où l'accès au crédit était très faible.
Oui.
Donc beaucoup de pays africains se sont tout simplement endettés.
Endettés auprès de ces organismes.
Ces organismes se sont mis dans des situations d'incapacité de remboursement justement parce qu'ils ne créaient pas l'industrie et donc la transformation, donc n'ont rien fait en termes d'amélioration de la productivité et donc de la valeur ajoutée, et donc n'ont pas pu avoir les ressources ou la richesse nécessaires pour rembourser.
D'accord.
Et donc on est rentré dans un système de rééchelonnement où on prenait même des prêts pour rembourser et ça se démultipliait avec les intérêts.
Ou finalement, on avait du mal à rembourser les intérêts de la dette et on remboursait pas le principal.
Et il faut pas dire que les Africains ne veulent pas rembourser, c'est faux. Un pays comme l'Algérie aujourd'hui est en train de prêter au Fonds monétaire international 5 milliards il y a même pas 3 ou 4 mois. Donc pour vous dire qu'il y a des pays très riches qui prêtent. La Libye n'a jamais eu un seul compte au FMI par exemple, au contraire. Donc il y a des pays qui s'en sortent très très bien. Alors, première chose. La deuxième chose, derrière cette politique quand même, il y a une orientation. C'est d'empêcher le système africain de transformer sa matière première. Parce qu'on voulait que ces transformations se fassent plutôt dans les pays occidentaux, qui sont d'ailleurs les principaux patrons du conseil d'administration du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, pour créer de l'emploi en Occident. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Créer l'emploi des jeunes en Occident. Donc c'est ça le problème. C'est pour ça que le karité ou le café ou le cacao, on fait tout pour le prendre sans transformation, jusqu'à faire ce qu'on appelle maintenant, on paye mieux le paysan, mais pourvu que ça vienne directement. Et dès lors qu'un État ou un gouvernement s'amuse à vouloir transformer localement, mais il a des bâtons dans les roues, y compris même des gouvernements qui sont mal élus ou qui étaient même des anciens dictateurs, mais quand ils ont compris et qu'ils commencent à faire de la transformation, ils ont systématiquement des gros problèmes.
Oui, mais ça, les choses sont en train de changer quand même.
On a cité
l'exemple du Gabon.
Il y a des discussions. Quand vous avez des États, je ne peux pas citer le Gabon pour le dire, ou le Cameroun ou d'autres, qui veulent vraiment modifier les choses, écoutez, ça ne se passe pas aussi bien quand on veut leur faire du financement, ça ne se passe pas aussi bien quand des grands patrons veulent investir dans tel ou tel endroit, il y a des conditionnalités non écrites qui sont en train de se mettre en place.
Ah, vous voulez dire qu'à partir du moment où, par exemple, le Gabon a décidé d'installer une transformation du bois sur place, il y a des mesures de rétorsion?
Ah oui, absolument. D'ailleurs, le Gabon est en train de se demander s'il ne va pas repousser dans le temps la date butoir où on devait tout transformer. Et parce que c'est en fait ça la réalité, c'est qu'on met des dates butoirs, on met un certain nombre d'essences de bois qu'on dit oui mais ça va se faire aujourd'hui, mais on peut étaler ça sur encore 10 ans, etc. etc. C'est-à-dire qu'il y a une marge de manœuvre qui est liée à ces rétorsions, ou en tout cas à des formes de puissance et qu'on ne voit pas directement. Et troisième élément qui est encore plus grave que ça, c'est que quand on parle de PPTE, qui est les pays très pauvres endettés, ces pays qui n'ont pas pu rembourser, qu'on soit dans cette situation, d'accord, mais qu'on n'ait pas mis un système en place pour créer de nouvelles richesses, pour s'en sortir, alors là, il y a un problème des dirigeants africains eux-mêmes. Et ça ne peut pas se faire sans des gens de la diaspora, sans les grands intellectuels africains qu'on trouve dans les universités et dans les écoles africaines, et ceux-là sont souvent mis de côté. Ils ont pourtant la formation, soit locale, soit externe, mais ils ne sont pas amenés à prendre la décision. Ils donnent des avis souvent non liés, et très très souvent, c'est le clientélisme. Donc ça rejoint la première question de la corruption, c'est-à-dire la corruption, faut pas le voir au sens où on prend ce
temps. Là, on va peut-être, si vous le permettez, Yves Kouamaïso, si vous le permettez, on va donner la parole à Régine Gillet-Chos sur cette première question. Notre auditeur nous disait, tant que la corruption se sera à ce niveau-là, on n'arrivera pas à créer de la richesse. C'est votre point de vue?
Oui, je pense que la corruption peut être un élément réducteur par rapport au développement des politiques de l'emploi, de la formation. Mais je pense que la corruption, je ne dirais pas qu'elle est universelle, elle est partout. On la trouve en Occident, on la trouve en Afrique. Mais en Occident, quand bien même la corruption existe, on voit que les pouvoirs publics mettent en place quand même les politiques de l'emploi. Moi, je reviendrai toujours à ce que Monsieur Yves Kouamaïso a dit lors de sa première intervention, en parlant de la transformation des produits locaux. Je pense qu'on ne peut pas parler de la création de l'emploi sans savoir ou sans dire comment on crée de l'emploi. Mais on ne peut pas créer de l'emploi sans parler transformation des matières premières, de tout même filament, de tous les éléments qui se trouvent dans l'espace où ces entreprises, où ces jeunes, où les États s'y trouvent. Donc, il a bien dit, Monsieur Amaïso, à chaque cycle de transformation, il y a des emplois qui se créent. Rien que dans la phase de conception d'un produit, ça fait des milliers et des milliers d'emplois. La phase de production, des milliers et des milliers d'emplois. La phase de commercialisation, des milliers et des milliers d'emplois. La phase de recyclage, des milliers et des milliers d'emplois. C'est vrai que ça va être très très difficile de voir qu'aujourd'hui les pays africains se mettent à vouloir revendiquer ce transfert de compétences, ce développement de technologies localement, sachant très bien que si on crée ces emplois sur place, c'est des emplois qui ne vont pas être créés ailleurs. Donc c'est vraiment une situation, en plus de tout ce qu'il vient de dire tout à l'heure m'a vraiment fait peur. J'ai vu à quel point où finalement ce combat risque d'être très très difficile parce que les enjeux sont très importants. Il est clair que les enjeux actuellement sont mathématiques. Les emplois qui existent chez vous n'existent pas ailleurs. Ça, c'est clair. Mais je pense que quand bien même on n'arrive pas à créer pour des tas de raisons, parce que même en Afrique, même si on exige aujourd'hui ce transfert de technologie, on n'est pas prêt en termes de formation. Parce que vous voyez, quand je parle d'emploi, je parle toujours de formation. Actuellement, je ne sais plus si c'est Yves qui a cité un exemple de quelqu'un qui voulait mettre en place un produit. On voyait très bien que localement, le produit n'existait pas. Donc, on dépend encore de l'ancien système qui a été mis en place sur l'emploi et la formation. Mais il faut savoir que l'emploi et la formation n'est pas neutre. Ce sont toujours des politiques qui sont mises en place pour servir tout un tas d'intérêts. Voilà.
Voilà. Ben, écoutez, je pense qu'on a bien compris qu'il y avait un rapport de force qui s'était installé. Maître Dominique Kunku, là-dessus, vous avez peut-être un commentaire à faire sur ce rapport de force pour réussir à créer des industries de la transformation en Afrique.
C'est-à-dire que moi, je trouve comme des indicateurs importants. Nous sommes dans une phase qui est magnifique. Que, par exemple, le Gabon puisse subir des pressions actuellement, c'est formidable parce que ça montre bien qu'en fait, comme on dit, où est le sens de la boussole, en fait. C'est vrai que, quand on regarde bien, l'emploi existe. En potentialité, l'emploi est là. Parce que dans les cycles de formation, dans les cycles de transformation, il y a des emplois. Donc, en fait, peut-être il faut penser une politique qui ne soit pas forcément une politique violente, une politique toujours décriade. Mais par exemple, quand on a parlé de l'OPEP, vous savez, l'OPEP, Bien avant.
Quand l'organisme qui régule le marché du pétrole dans le monde.
Hein. Tout le monde se moquait des pays arabes, ainsi de suite. Jusqu'au moment où ils ont compris qu'il y a la force qui permet, pas la force forcément militaire, il y a eu des menaces militaires, mais l'entente, la cohésion, le fait de comprendre que c'est une responsabilité historique d'arriver à transformer les choses. Et c'est là que la volonté politique, elle est importante. Mais une volonté politique, en fait, débarrasser des peurs, des angoisses, débarrasser des... Justement, c'est là que la question qui était posée par rapport à la corruption. Parce que quand l'État corruptif qui s'installe de manière généralisée, si la corruption ne touchait que le bas peuple, c'est autre chose. Mais quand la corruption entre dans les maisons du pouvoir, il est entendu qu'après, c'est difficile d'arriver à avoir une position de en tant que tel. Mais dire cela, ce n'est pas une fatalité. Mais simplement, c'est rendre compte, montrer que, par exemple, pour moi, ça me plaît que le Gabon puisse subir des pressions pareilles. C'est-à-dire que c'est des faits importants. Ce sont des paramètres d'analyse qui me permettent de voir, en fait, comment le curseur doit se positionner. C'est que l'emploi est là, mais simplement, les emplois africains ont été, je dirais, exportés. Maintenant, comment faire pour que ces emplois exportés soient de plus en plus sur terre africaine, sur
merci,
une réalité.
Merci, voilà. Maître Kunku. On va donner la parole à Apache, qui est au téléphone avec nous, qui veut participer à la conversation. Bonsoir, Apache.
Allô? Oui, bonsoir.
Bonsoir. Nous vous écoutons.
Je voudrais intervenir juste pour le salaire de jeunes en Afrique. C'est pour cela que ça désintéresse et ça démotive plus d'un peu de jeunes d'aller travailler. Parce que si le salaire est très bas, l'on serait beaucoup plus tenté au débrouillardisme pour essayer de gagner sa vie convenablement, parce que si quelqu'un travaille pour 20 euros, 30 euros par mois, c'est pas intéressant pour lui. Et je crois que pour que l'Afrique se développe, l'Afrique ne peut pas se développer sans l'apport de la diaspora et de gens qui viendront de l'extérieur. Parce qu'on a l'expérience, on a l'expertise de la diaspora pour faire développer l'Afrique. Mais comment aller travailler en Afrique avec des salaires si bas, des salaires qui ne permettra pas à quelqu'un de faire nourrir sa famille, de faire vivre sa famille. C'est là où le bas blesse. Parce que sans une hausse considérable, c'est-à-dire une hausse, une valorisation des salaires, en tout cas, les gens ne seront pas intéressés, ils ne seront pas très impliqués dans la recherche du développement en Afrique.
À condition, évidemment, que les...
C'est très important. Oui. Il faudrait que les hommes politiques mettent un accent sur ce point-là, un accent sur les salaires.
Voilà, et pas seulement les... on va laisser réagir nos invités, Apache. Oui, on va laisser réagir nos invités. Et puis, je pense que ce sont les politiques, mais ce sont aussi les entreprises. Il faut que les entreprises puissent supporter ces hausses de salaire. Alors, Régine Gillet-Chos, vous voyez réagir en entendant Apache. Oui.
Justement, je voulais dire à Apache que le salaire n'est pas déterminé comme ça au hasard. Le salaire est déterminé en fonction du niveau de développement économique d'un pays. Donc, un pays ne peut pas décider en fonction de ses rentrées ou pas de dire à partir de tel mois, le SMIC s'élève à tel montant. Donc, si vous avez vraiment une volonté d'aller investir dans votre pays, c'est ce que j'entends à travers votre discours, c'est de retourner dans votre pays, de faire comme tout le monde, de prendre votre place, investir.
D'être entrepreneur,
soit dans le salariat, soit dans l'entrepreneuriat et de créer de l'emploi et de contribue aussi au débat social. Parce que tout ce que vous venez de dire, si vous êtes sur place, vous êtes engagé, je ne sais pas, dans une organisation syndicale, vous êtes engagé dans votre entreprise, vous êtes engagé dans d'autres pays, vous pouvez aussi contribuer à faire émerger la question de l'augmentation de la masse salariale ou des salariés des entreprises de votre pays.
Merci, il est 18h45, on va entamer dans quelques instants la dernière partie de notre émission. On va aussi parler des conséquences que pourrait avoir ce chômage massif des jeunes sur la cohésion sociale en Afrique dans quelques instants.
Jusqu'à 19h, c'est le grand débat avec Dominique Guillot sur Africa numéro 1.
La suite et la fin du grand débat consacré ce soir à l'emploi des jeunes en Afrique. 37% de la population, mais 60% des chômeurs, donc des chiffres terribles et inquiétants finalement. Et cette année, la Banque mondiale, dans un rapport qui a frappé, je pense, les esprits de ceux qui l'ont lu, mais pour le grand public qui finalement a été relativement ignoré, disait ceci. Si l'Afrique ne parvient pas à créer des opportunités économiques et d'emploi suffisantes pour offrir des conditions de vie décentes à ce pan de la population, donc les jeunes, cette tendance peut aussi induire un risque non négligeable et menacer la cohésion sociale et la stabilité politique. En d'autres termes, est-ce qu'il y a un risque de révoltes africaines à partir des jeunes? Ivekou Amaizo.
Le risque de révolte, il est là. Regardez ce qui s'est passé en Afrique du Nord. C'est un individu ou un groupe d'individus du secteur informel, diplômé par-dessus le marché, qui en avait ras-le-bol, qui a déclenché le printemps arabe. Ne croyez pas que ça ne peut pas arriver en Afrique. Ça, c'est le premier problème. Donc, le risque de révolte, il est potentiellement là. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, il n'y a pas d'armes qui circulent pour le moment trop en Afrique subsaharienne. Deuxième élément qu'on ne voit pas et qui devient beaucoup plus grave, c'est ce qui se passe au niveau du Mali avec toutes les connotations jusqu'à Boko Haram, ces groupes terroristes au niveau du Nigeria, ou le monde musulman en général, y compris, on ne le sait pas, mais l'Équateur, qui finance des structures qui finalement vont profiter de ces jeunes.
Qui vont chercher des jeunes, hein, qui vont emploi. Vraiment les enrôler.
Absolument, qui, ouais. Absolument. Quelque soit la façon dont ils s'y prennent, on croit que c'est au nord, là-bas, au Mali, c'est en train de descendre complètement. Je crois même que celui qui dirige l'UMOA actuellement, je crois que c'est le Togo, vient de le faire remarquer justement pour amener le Conseil de sécurité à autoriser le Mali à intervenir. Donc, le risque, il est absolument là. Il y a un deuxième problème, ça c'est le risque, je dirais, externe. Mais il y a un risque interne, c'est que le patron africain, le patron noir africain, pour être précis, mais il ne veut pas payer des salaires comme il faut. C'est ça le fond du problème aussi. Il faut qu'on puisse discuter avec lui sérieusement. Il ne comprend pas, il fait ce qu'on appelle la course vers le bas des salaires. Des salaires de 30 à 40 euros par mois, jusqu'à 100 euros. Je veux bien que le pouvoir d'achat ne soit pas très élevé dans la plupart des pays, mais quand même, faut quand même être un peu sérieux. Donc ça veut dire quoi? C'est que les gens vont faire plusieurs emplois. Le fonctionnaire, il vient dans son bureau, il met sa jaquette, il repart faire ses affaires à gauche et à droite. Alors pour répondre à la question de tout à l'heure aussi rapidement, qui est liée à celle-ci, la diaspora qui veut rentrer, attention, il faut passer par une phase de transition. Il faut enlever de la tête le salariat. Rentrer en Afrique pour la diaspora, c'est de l'entrepreneuriat, c'est des entreprises. C'est se mettre ensemble avec des gens locaux qui sont déjà dans l'activité. Je vous donne encore l'exemple du bois, mais c'était très simple. Vous parlez avec les gens, vous choisissez celui ou celle avec qui vous voulez travailler, vous lui apportez, vous l'aidez à trouver un équipement. Vous le financez même cet équipement, vous lui mettez à disposition et vous lui faites la formation, comme ça a été dit, dans telle spécialisation du bois. Et le gars, il fait de l'argent, vous serez étonné. Et il gère la commercialisation. Donc il faut arrêter de faire croire que c'est un truc en l'air. Non, la diaspora se prend pour je ne sais trop qui. Il faut qu'elle descende sur le terrain de temps en temps. Il faut qu'elle arrête d'être arrogante. Il faut qu'elle dise tout simplement de quoi avez-vous besoin et quel est votre problème. Et quand elle accepte d'écouter, elle voit très vite qu'elle peut aider énormément. Ne serait-ce que pour apporter ce que j'appelle le contenu technologique, c'est-à-dire de la technologie. Elle peut même négocier avec le gouvernement pour qu'il n'y ait pas de la fiscalité et qu'il n'y ait pas de la corruption. Parce que quand vous faites venir un équipement d'occasion dans tel ou tel pays que je ne vais pas citer, et qui vous coûte 5 000 ou 10 000 euros, je prends par exemple un petit tracteur pour le champ, et qu'on vous met une taxe dessus qui est la même somme, c'est-à-dire le double, ben vous n'avez pas envie d'améliorer la productivité de votre champ.
Est-ce que finalement vous ne posez pas aussi là le problème du cadre dans lequel évoluent les patrons, parce qu'un patron reste un patron, comme s'il n'a pas d'obligation légale, finalement il va chercher à verser des salaires les plus bas possibles pour pouvoir dégager la marge la plus importante possible.
Obligations légales existent, que ce soit
elles
au niveau
ne
national,
sont pas
au niveau sous-régional, au niveau continental. Ils existent. Et des lois bien faites d'ailleurs, l'OADA, etc. Le problème du fond, c'est que ces patrons sont dans une forme de clientélisme. Ils sont liés à des pouvoirs politiques, ils sont liés à des pouvoirs ésotériques, on n'en a pas parlé beaucoup, parce que ces pouvoirs ésotériques, que ce soit des religions officiellement en place qu'on connaît, d'autres moins connues qu'on ne connaît pas, ils sont dans des relations de clientélisme avec le pouvoir. Et quand vous rentrez dans ces structures, on ne vous demande plus de travailler. On vous demande, en gros, de dire que quel est le plus beau politicien du coin et d'aller faire l'animation pour lui pour qu'il gagne la prochaine élection, voire de trafiquer des urnes pour qu'il gagne. Dès lors, la notion d'effort, de travail pour obtenir un salaire ne fonctionne pas. J'ai eu un cas d'un individu qui faisait du bois, 14 employés, travaillait très bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a été imposé 3 fois dans le même mois pour le montant de l'année. Et quand il a montré ses papiers qu'il a bien payé, il a bien tout payé, on lui a dit non, ça c'est l'administration officielle. Nous sommes l'autre administration, généralement communale, parce que la décentralisation ne marche pas toujours très bien. Et le gars a été taxé 3 fois. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Certains viennent carrément brûler chez vous, certains vous coupent votre électricité, alors imaginez votre équipement qui ne peut pas marcher, ou pire, on vous fait des baisses de tension. Ça aussi, c'est nouveau. On baisse la tension, votre ordinateur saute, vos équipements sautent, allez les acheter quand vous n'avez pas d'onduleur.
Là, vous êtes en train de... Là, vous décrivez un système mafieux, en fait.
Bon, je ne veux pas utiliser des grands mots comme ça, c'est la pratique, c'est que ça peut se résoudre.
Ça y ressemble, hein.
Il faut que la diaspora comprenne que ce sont des problèmes auxquels il doit faire face, il faut donc déconstruire, il faut regarder comment ça fonctionne cette histoire, et puis dire voilà où il y a le trou. Alors, cette corruption dont on parle, attention, dans tous les pays du monde, je suis en Autriche, la corruption elle est élevée, hein. Donc le Japon c'est pas mieux. Donc parfois ça fait tourner le moteur, donc faut pas non plus négliger. Il faut seulement l'intégrer de manière intelligente. La corruption ne peut pas venir empêcher ou prendre la partie de l'argent qui retourne aux jeunes, par exemple. C'est inacceptable. Donc c'est ça qu'il faut voir. Et donc pour finir dessus, c'est la notion d'impunité. Et là, on rejoint le thème religieux, on rejoint l'éthique, on rejoint des gens qui ont envie d'une Afrique propre où on ne vole pas et non pas une Afrique où on vole. Moi, je suis en Autriche, il y a des quartiers où vous mettez votre journal, vous mettez une pièce, vous prenez votre journal. Vous allez acheter des fleurs dans un champ, vous prenez le nombre de fleurs que vous voulez, vous mettez la pièce dans un champ. Vous voulez acheter une citrouille ou des fruits, vous mettez la pièce. Personne ne pense voler le paysan parce qu'on sait que le paysan a besoin de manger. Essayez ça d'un certain nombre de pays africains, je ne pense pas que ce soit pareil.
Alors, nous allons faire un dernier tour de table puisque l'heure tourne et que nous arrivons à la fin de cette émission. Régine Gillet-Chos, vous partagez le diagnostic d'Iveku Amaizo?
Tout ce qu'il a dit depuis le début, je partage tout ce qu'il a dit. Bon, évidemment, sauf quand il va dans certains excès ou dans certains détails. Mais il est au cœur même de la problématique de l'emploi, des failles qui sont autour de la problématique de l'emploi de jeunes. Mais moi, j'aimerais ajouter quelque chose que je venais de vous dire, oui. Monsieur Guillaume. Quand vous m'aviez demandé d'intervenir pour cette émission, j'ai pensé vraiment qu'il fallait faire venir les DRH ou un DRH
directeur des ressources humaines
pour être avec nous pendant cette émission.
De grandes sociétés installées en France qui travaillent en Afrique.
Je pense
et qui emploie des milliers de personnes.
Hein, celui-là, c'est le premier employeur. Il n'y a même pas 3 semaines. J'ai pensé au DRH du groupe Bolloré, qui emploie 23 000 salariés sur le continent.
Avec qui vous travaillez dans le cadre de votre activité d'association?
Il a été invité, mais on ne travaille pas encore. Mais il connaît l'association.
D'accord.
J'aimerais qu'on travaille ensemble. Je lui ai même envoyé un mail dans ce sens, puisque c'est mon combat et c'est le premier employeur. On ne peut que se rencontrer. Je lui ai dit d'ailleurs dans le mail qu'on ne peut que coopérer, parce qu'on est au cœur d'une activité commune. On ne peut pas parler de la politique de l'emploi sans parler des entreprises. Tout comme quand les ministres africains de l'emploi ou les directeurs des services publics d'emploi africains se réunissent, ils se réunissent sans inviter les chefs d'entreprise, les directeurs des ressources humaines ou les patronats de leurs pays respectifs. Or, la politique de l'emploi où l'emploi des jeunes est une politique partagée. On parle de partenaires sociaux. Les partenaires sociaux, ce sont les syndicats, ce sont les ministres, ce sont les entreprises, ce sont toutes les associations, les ONG.
Mais qu'est-ce que vous avez à lui dire, par exemple,
au DRH
de
Bolloré? Je veux vraiment lui dire ça. Il sait, j'en ai déjà parlé avec lui plusieurs fois. Je pense que s'il vient sur Africa numéro 1, je lui donne toutes les garanties, il lui arrivera rien du tout.
Non, ça, nous aussi, on lui donne toutes les garanties. Hein. Il ressortira vivant, rassurez-vous.
Il sortira vivant et je signe. Il faut vraiment, oui. Je veux juste tout simplement que comme c'est le premier employeur, et je le sais, il le sait, j'ai déjà parlé de ça à lui plusieurs fois en privé, qu'il vienne juste, je voudrais juste qu'il vienne exposer sa politique RH, sa politique sociale sur le plateau, échanger avec les jeunes Africains. Quel jeune Africain ne rêve pas de travailler dans son groupe? Ça sera l'occasion.
D'accord, très bien. Message envoyé, peut-être reçu, je l'espère. Maître Kunku, un petit mot de conclusion.
Moi, je crois que on parlait de la cohésion sociale menacée. Elle est déjà menacée. Elle est déjà menacée parce qu'on assiste à des distorsions énormes. On assiste à des familles qui ne peuvent même plus envoyer les enfants à l'école, qui peuvent pas, parce que souvent les scolarités tout est payant maintenant. Et je pense que puisque le temps est en train de passer,
malheureusement vous entendez la petite musique qui signale que nous arrivons à la fin de l'émission.
Juste dire très vite, peut-être qu'il faut qu'on apprenne à intégrer des contraintes.
Voilà.
Chômage, même corruption, tous ces éléments. Comment intégrer cela dans le circuit pour de telle façon qu'on dégage des politiques d'emploi, des lignes d'emploi, des polices d'emploi qui soient vraiment.
Merci à vous, Dominique Kunku. Voilà. Malheureusement, nous arrivons au terme de cette émission. Dommage. Vous l'avez compris. Merci à Régine Gillet-Chos, présidente d'Agir pour l'emploi des jeunes en Afrique. Merci à Yves Ekoué Amaïso qui était avec nous en duplex de Villefranche-sur-Saône. Et puis à très bientôt tous sur l'antenne d'Africa numéro 1.
Africa numéro 1, le grand débat.